9h15, 10h. La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.
Il est 9h15 en direct de Du Radio. Bonjour tout le monde. Elle est la nail artiste française la plus demandée. Elle collabore dans plusieurs domaines, la mode, la musique, les éditos presse, avec Jean-Paul Gaultier ou sur le clip d'Amza. Elle a développé sa marque et son salon a pris place aux 3 rues d'Alexandrie dans le 2e arrondissement de Paris. Nail artiste et formatrice ultra talentueuse. Salut Lily Kruk.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Bah écoute, super. Merci pour cette présentation incroyable.
Donc avant qu'on parle de ta pratique qui a commencé il y a une dizaine d'années maintenant, on va revenir sur ton parcours. Tu grandis à Noisy-le-Grand dans le 93.
Tout à fait, dans le 93.
Tu as fait les Beaux-Arts de Caen où tu développes une pratique à l'école qui n'est pas celle du nail art. Tu peux raconter cette partie de tes études et de ta pratique d'artiste ?
Oui, alors j'ai commencé par faire de la psycho après le bac. Parce que j'avais rempli admission post-bac à l'époque, du coup. Et ça ne m'a pas trop plu. C'était très intéressant et finalement, je me suis dit que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Depuis longtemps, je voulais le faire, mais j'avais toujours eu la flemme, parce que j'avais un lycée en bas de chez moi, donc j'avais eu la flemme d'aller faire déjà un lycée orienté art. Donc j'ai fait une prépa pour rentrer aux Beaux-Arts. C'était une prépa privée. J'avais pas trop d'argent, donc je l'ai fait en cours du soir. Comme ça, la journée, j'avais un petit boulot, je bossais chez Claire's. Et comme ça, le soir, je pouvais faire les cours du soir pour intégrer les écoles, préparer les concours. Et j'ai eu les Beaux-Arts de Caen. C'était très sympa, je connaissais pas du tout. C'est une école assez récente, c'est la petite minute pub pour les SAM, du coup, les Beaux-Arts de Caen. Et c'est l'école en France qui a le plus d'ateliers techniques. Donc c'était vraiment la porte ouverte à tout. Le champ des possibles était incroyable et c'est ça qui m'a plu parce que je me suis orientée vers l'art mais je savais pas trop ce que je voulais en faire de base. À l'époque, c'était le tatouage qui me plaisait. Donc je me suis dit, bah go, on va faire des études d'art et comme ça, on saura mieux dessiner à la fin. Ça ouvrira en tout cas notre créativité, on pourra faire quelque chose comme ça. Mais je me suis pris de passion pour les ongles au même moment. Et ça a un peu impacté ma pratique artistique pendant mes études. Et j'avais commencé en première année, j'avais fait un doigt géant avec comme une petite tablette. Les ongles étaient comme des petites tablettes interchangeables. En fait, c'était un peu kitsch. Donc, j'ai vite lâché l'affaire parce que j'avais du mal à réussir à faire quelque chose un peu d'intelligible dans ma pratique et que ça tombe pas dans le... C'est trop kitsch, en fait. Donc, c'était dur pour moi de doser. Donc j'ai fini finalement par intégrer plutôt des codes du nail art, d'être un peu moins littéral, on va dire. Parce qu'au début, j'étais là, j'aime les ongles, je vais faire un gros ongle. Bon, on peut faire un peu plus subtil quand même. Et du coup, ça s'est beaucoup retrouvé. Donc c'était pas mal autour du corps, ce que je faisais. Le corps déformé qui devient assez décoratif finalement. C'était plutôt ça. Un peu, je vais pas dire trompe-l'œil parce que c'était pas non plus ça, mais c'était plutôt de la distorsion, mais pour finir par faire quelque chose de décoratif. C'était un peu l'idée. Et je faisais de la céramique. Il y avait un four et une trop gentille dame qui avait son atelier à l'école. Et je faisais également de la sérigraphie et de la lithographie. C'est un type d'estampe sur lesquelles on dessine sur une grande pierre. Et ça, j'ai adoré déjà l'aspect très ancestral de la technique. C'est les premiers journaux étaient imprimés comme ça. Enfin, je trouvais que c'était super de faire quelque chose comme ça. Je pouvais passer des heures à faire mes petits dessins sur ma pierre. Et après, tu peux le printer autant de fois que tu veux. Et je mixais cette pratique un peu ancienne avec un rendu très crayonné, très gris, avec des gros dégradés roses, bleus, que je rajoutais en sérigraphie, qui étaient plus de l'univers du nail art. J'avais acheté même des pigments holographiques, j'avais payé ça, mais j'étais étudiante, ça m'avait saigné. Des composants de vernis, en fait, j'avais acheté ça pour les intégrer dans les peintures en sérigraphie. Donc, je mettais petit à petit ma passion pour le nail art dans ma pratique, mais de manière un peu plus subtile.
Et au même moment, donc en simultané, tu fais un blog. Le soir, tu commences à pratiquer le nail art. Tu me disais que quand on s'est parlé en amont de l'émission, que tu pouvais faire 4-5 fois effacer, recommencer et faire des posts sur tes blogs. Tu nous racontes du coup ces premières interactions, même avec un public, à un moment où le nail art, c'est pas du tout, en tout cas, l'image qu'on en a aujourd'hui.
En fait, j'ai toujours aimé les vernis à ongles. Donc, j'avais beaucoup de vernis à ongles chez moi. Et j'ai commencé, ça a commencé à être une vraie addiction, hein, disons-le. Je mettais des réveils à 2h du mat la nuit parce qu'il y avait un vernis qui sortait en édition limitée à Singapour qui coûtait 25€ pièce. Avec mon budget d'étudiante, ça me flinguait ça, mais c'était plus fort que moi, j'étais devenue obsédée par ça. Et c'était l'âge d'or du blog aussi, disons-le. Maintenant, avoir un blog, c'est un peu étonnant. Mais à l'époque, c'était, on parle d'avant Instagram.
Mais d'ailleurs, ils ont tous été supprimés, non ? Les blogs, les Skyblogs en tout cas.
Alors, Skyblog a été supprimé, mais c'était quand même... Les Skyblogs, c'était fini quand même. On parle d'une époque pas si lointaine quand même.
C'était en quelle année, là ?
C'était il y a 15 ans, les Skyblogs, plutôt, je pense.
Ah ouais ?
Ouais,
moi, j'ai l'impression que ça a été supprimé il n'y a pas si longtemps.
Alors, ça a été supprimé il n'y a pas longtemps, mais plus personne n'avait... peut-être j'étais pas dedans, je sais pas.
Moi, j'en ai retrouvé, je suis bien contente que ça n'existe plus.
Non, moi, j'avais eu la présence d'esprit de le désactiver, je crois.
Ah ouais.
Je pense que je me rendais compte de... Mm. Mais c'était là, on parlait du truc perso où tu disais... tu mettais des photos avec tes copines et tu disais « Ah, je t'aime trop !» Non, là, du coup, j'avais un blog orienté nail art. Mm. C'était un blogspot, du coup. Et j'avais fait ça pour partager avec d'autres gens des photos des nail art que je faisais. Et donc, la journée, j'allais à l'école et le soir, je faisais ça. Je faisais des photos, j'ai investi dans un réflexe. Enfin, vraiment, j'étais devenue... c'était ma passion, quoi. C'était vraiment ce truc-là. Et Instagram est arrivé. Donc, moi, j'ai créé mon compte en 2013. Et c'est un peu là que tout a un peu basculé. C'est très dramatique de dire ça, mais c'était vraiment... Voilà, au début, c'était des petits vernis classiques, ce que je faisais. Puis, c'est resté longtemps en vernis classique parce que moi, je suis un peu une bonne élève. Si je ne suis pas formée, je ne voulais pas toucher du matériel permanent. Du coup, et j'avais trop peur d'abîmer les ongles.
Donc, quand tu dis vernis classique, c'est un vernis qui sèche.
Vernis qui sèche à l'air libre.
À l'air libre.
Ouais. Okay. Donc, c'était très chiant de faire du nail art avec ça. Maintenant que j'utilise du matériel professionnel, je me dis, mais quelle galère de faire ça comme ça. Donc, finalement, on était plutôt pas mal, puisqu'on se compliquait la vie à fond. Mais c'était super chouette. C'était vraiment en tout cas, je garde des super souvenirs de ça. Je me souviens, il y avait le père de mon copain de l'époque qui m'avait fabriqué une vernitech. Donc, comme une bibliothèque, mais pour ranger tes vernis.
Okay.
Et du coup, avec plein d'étagères, j'avais 300 vernis à ongles. Donc, tu vois, il fallait ranger ça dans notre petit appart et tout.
Et c'était par couleur ?
Bien sûr, par couleur. Toujours bien toc-toc de ça. Il faut que tout soit aligné par couleur.
Ok. Et tu te souviens du nom de ton blog ?
Alors.
Ou de tes blogs, je ne sais pas si tu en as eu plusieurs.
Non, j'en ai eu qu'un. C'était déjà bien suffisant. Mon blog s'appelait Ducky Nail Art parce que j'aimais trop les animaux et que du coup, j'avais choisi un petit canard comme logo. Donc, c'était bien ridicule et c'était le nom de mon Insta au tout début. Donc, j'étais Ducky NPA parce qu'à l'époque, la communauté des gens qui faisaient du nail art s'appelait les Nail Polish Addicts. NPA.
Ok,
du
trop
coup.
Bien.
Donc, c'était un peu... maintenant que je le regarde avec mes yeux d'adulte, je trouve ça drôle, mais c'était mignon.
Et tu te rappelles d'un post qui avait fait... où tu avais eu des commentaires On pouvait liker ou pas sur...
On pouvait liker et commenter. Alors, évidemment, c'était pas le nombre de likes et de commentaires que tu as sur tes posts Insta maintenant. Mais il y avait quand même une communauté assez active parce que le jeu quand t'as un blog comme ça, c'est que toi-même tu commentes ceux des autres et du coup on se rend un peu là pareil. Et ouais, j'avais, je sais pas si ça pouvait se dire sur les blogs, j'avais percé du coup avec un post, j'avais reproduit du coup la vague d'Okusai sur mes tout petits ongles et c'était un défi pour moi de faire quelque chose. C'était la première fois que je me chauffais à faire quelque chose en fait d'aussi précis et petit. Et moi-même, j'avais été surprise du résultat et j'étais assez fière de moi, je me souviens. Et tout le monde était waouh, c'était trop beau, tout ça. Et je trouvais ça chouette de lier du coup finalement un peu mes études. Okusai, c'est quand même grand public, mais c'était chouette de pouvoir un peu lier les deux. Donc l'art avec un grand A et le nail art du coup.
Donc tu passes ton diplôme, ton DNAP.
Mon DNAP en 2016, tout à fait.
Et tu rentres à Paris.
Et je rentre à Paris.
Là, tu commences à travailler dans un nail bar et...
Non.
Non.
D'abord, en fait, comme je te disais, moi, je suis une bonne élève. Donc, du coup, j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire. Donc, le même été. Donc, j'ai eu mon diplôme fin juin. En août, je faisais la formation. Et cette formation durait 3 semaines pour être prothésiste ongulaire. Du coup, c'est comme ça qu'on dit le mot général. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je crache pas dans la soupe, mais c'était quand même une formation assez... classique et assez à l'ancienne. Donc on m'a appris, on était donc en 2016 et on a appris des techniques de 2002, quoi, je pense plutôt. Donc c'était pas exceptionnel ce que je savais faire au début. Et au bout de plusieurs mois, ils m'ont engagée en tant que formatrice. En fait, j'ai bossé chez The Couple juste après pour payer mon loyer, quoi. Et ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, écoute, on se souvient de toi. Sous-entendu, la meuf chiante qui posait trop de questions, qui était trop à fond par rapport aux autres, ça a payé du coup. Et ils m'ont engagée en tant que formatrice et ils m'ont formée en interne pour former des élèves, quoi. Et c'était super formateur parce que tu te retrouves, j'avais 25 ans, je me retrouve devant des classes avec une dizaine de personnes et c'est des mamans, quoi. Elles pouvaient être ma mère, souvent des reconversions professionnelles. Mmh. Et du coup, réussir à avoir le courage et la prestance de faire ça, enfin, c'était un sacré challenge, mais j'ai beaucoup appris en tout cas.
Ouais, t'as presque commencé en étant formatrice.
J'ai commencé en étant formatrice.
Et tu y reviens là récemment.
Complètement.
On en parlera un peu plus tard.
Ta maman m'a validé. Avec toi, je navigue. Tellement t'as pas idée. Je prends tes défauts, tes qualités. Avec ma pure, rien peut t'arriver. Yeah. Oh, ride avec moi, oh, pars avec moi, babe. Yo. Oh, fuck avec moi, oh, pleure avec moi, babe. Yo. Oh, danse avec moi, oh, dors avec moi, babe. Yo. Oh, oh, remplis ton verre. J'ai envie qu'on s'aime, envie qu'on traîne. Yeah. De longues nuits sous le ciel, pas de cauchemar sans rêve. Là jusqu'à ce qu'on crève. Seule vie donc reste, pas qu'une seule nuit d'hôtel. Oh, yeah, 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 slow down, oh, yeah, 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 slow down. C'est le moment que j'attends tellement, love tellement. Laisse dire car il m'en tousse comme il respire. Yeah, 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 low life, oh, yeah, yeah, yeah. Baby, ne me laisse pas, tu regretteras. Baby, est-ce dans cette cha-cha, je veux de toi, moi, donc ne pars pas, non, non. Non, non. Yo, ta maman m'a validé. Oh, yeah. Avec toi je navigue. Yo, j'en veux tellement t'as pas idée. Oh, yeah. J'prends tes défauts, tes qualités. Avec ma pure, rien peut t'arriver. Yeah. Oh, ride avec moi, oh, pars avec moi, babe. Yo. Oh, fuck avec moi, oh, pleure avec moi, babe. Yo. Oh, danse avec moi, oh, dors avec moi, babe. Yo. Oh, 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 yeah. Yo. Elle m'en donne à peine, je rentre. Elle est tellement sexy. La chambre fait bam bam bam. Elle en a été long long long. Ok, ok, t'en fais pas, moi je sais. Moi je sais, je sais, je sais. Yeah, 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 buzz down, oh. Yeah, yeah, yeah. Ça fait longtemps que j'attends tellement, sincèrement. Jet ski quand je rentre, soir, baby, respire fort. Yeah, 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 slow down, oh. Yeah, yeah, yeah. Baby, ne me laisse pas, tu regretteras. Baby, est-ce dans ce cha-cha? Je veux de toi, moi, donc ne pars pas, non, non. Non, non. Yo, ta maman m'a validé. Oh, yeah. Avec toi, je navigue. Yo, j'en veux tellement, t'as pas idée. Oh, yeah. J'prends tes défauts, tes qualités. Avec ma pure, rien peut t'arriver.
Aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu es professionnelle, mais en réalité plus longtemps que tu as commencé à pratiquer. Et la même année, tu ouvres deux salons, le salon Lily Cruck, déjà rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement de Paris. Tu peux nous raconter ces ouvertures, puisque ces expériences ont finalement permis la création de l'actuel salon aux 3 rue d'Alexandrie, le Coven Nail.
Oui, tout à fait. Donc en 2018, j'ai ouvert mon premier salon, donc j'étais toute seule, et c'était un salon de coworking, en fait, pour les prestataires de beauté. C'était mon premier bébé, en fait, tout simplement. Au début, j'ai commencé, je faisais les ongles dans mon studio, chez moi, et il y avait mon clic-clac collé à mon bureau. Donc, j'ai commencé comme ça, mais parce que c'était alimentaire, en fait. Tout simplement, j'avais besoin d'argent au début. Je me suis fait licencier de mon travail qui coulait, quoi. Ça a fermé, licenciement économique. Et j'avais un chômage vraiment nul et un loyer très parisien. Donc, du coup, il fallait manger et pas que des pâtes. Donc, du coup, je me suis lancée dans les ongles, mais un peu par dépit, finalement, au début, puisque c'était la formation qui avait vraiment... qui m'avait touchée, quoi. J'avais vraiment adoré ça. Donc au début, les clientes ne m'attiraient pas plus que ça. Je me suis lancée à mon compte, du coup, chez moi, dans mon petit appart, où j'avais mis un rideau pour faire semblant d'avoir une chambre derrière. Tu parles, c'était un vieux placard. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, OK, ça marche bien, mais ça me saoule de recevoir les gens chez moi. Je me sentais plus du tout chez moi. Donc j'ai ouvert un premier salon, donc au local, ça s'appelait. C'était rue Alexandre Dumas. Donc j'ai un truc avec le Alexandre, je ne sais pas pourquoi. Dans les rues, il y a toujours un point commun. Et du coup, j'avais des filles qui faisaient les cils, les cheveux, tout ça. Donc, des prestataires de services dans la beauté, mais qui faisaient autre chose. Le but, c'était de brasser nos clientèles différentes.
Mais du coup, tu louais des espaces?
Ouais, en gros, c'est ça. Alors, en France, c'est illégal de sous-louer. Donc, du coup, on fait de la mise à disposition d'un espace de travail meublé. C'est ça, l'appellation. Et j'ai fait ça pendant quelques années, au moins 3 ans, je pense. Ouais, 2-3 ans. 3 ans. Et au bout d'un moment, tous les jours, mon planning a été très vite rempli. Et tous les jours, j'envoyais à la concurrence, je disais j'ai pas de place, je prends pas de nouvelles clientes. Et au bout d'un moment, c'est frustrant quand même. Tu vois, d'avoir autant de demandes et de pas pouvoir répondre favorablement à cette demande. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé la marque avec laquelle je collaborais le plus, puisque j'étais ambassadrice pour eux. Donc The Gel Bottle, c'est une marque anglaise. Et j'ai appelé la distributrice France et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien ouvrir un salon, mais je trouve qu'on a du mal en tant que professionnel à trouver du matériel en physique, en fait, en boutique physique. Donc, j'aimerais ouvrir un corner dans mon salon pour les pros avec la marque. Elle me dit, écoute, j'y pense depuis un moment. Elle était basée à Nantes. Et j'y pense depuis un moment d'ouvrir ça à Paris. On le fait ensemble si tu veux. Et au début, j'étais un peu genre, mais je t'ai rien demandé, c'est mon projet. Et finalement, quand j'ai compris qu'on allait tout diviser par deux, je me suis dit que c'était une très bonne idée. Parce que ouvrir un local à Paris... un peu plus sérieux. Moi, j'avais 27 mètres carrés au début, donc c'était mignon. Là, on parlait d'un local de 100 mètres carrés, des frais... vraiment, j'avais pas idée que ça coûtait autant d'argent de faire ça. Donc au début, ça a été une grosse source d'angoisse parce que ça devenait très sérieux d'un coup. C'était pas mon petit local qu'on avait fait avec mon proprio, limite. On avait rempli ça un peu à l'arrache. Là, c'était vraiment très sérieux. Beaucoup de frais d'agence, de dépôt de garantie, tout ça. J'ai dû faire un crédit pour pouvoir faire ce projet-là. Et on a ouvert, du coup, le salon Lily Cruc / la boutique Free Nails, du coup, donc sa partie où elle vend ses produits, où elle a une employée sur place. On est coloc, en fait. Donc, on a ouvert ça et j'avais une salle de formation aussi. Et j'ai employé mes 2 premières salariées. C'était une chouette expérience. Et très vite, en fait, on était remplis. Donc, les clientes ont fait confiance. Les plannings ont été remplis très vite. On a ouvert le 1er janvier 2021. Et en avril, j'embauchais déjà une nouvelle personne parce que trop de demandes. En novembre, j'embauchais une nouvelle personne encore puisque trop de demandes. Et en fait, ça a grandi très, très vite. Vraiment, ça a explosé. On avait beaucoup de demandes pour plein de choses, même des événements, des trucs. On a bossé avec des marques, Adidas, des shootings, tout ça. Et ça commençait à être gros. Et en fait, on n'avait plus de place au salon pour mettre des bureaux. Et du coup, je me suis dit, il nous faut plus grand. Mais j'aimais beaucoup mon salon. J'avais pas envie de déménager tout de suite. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'ouvre un autre salon. Et je me suis dit, il faut que j'ouvre dans un autre quartier de Paris, en fait. Puis je me suis dit, mais en fait, je suis tellement centrale. En fait, je voyais pas quel autre quartier de Paris pouvait être intéressant. Moi, je suis pas fan de la rive gauche. Donc j'avais pas envie d'ouvrir rive gauche. Et on était déjà hyper centrale puisqu'on est dans le deuxième. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on ouvre toujours dans le même quartier, en fait. Et avec le Covid, y avait pas mal de locaux dispo. Et dans le quartier, du coup, il y avait... un local disponible, c'est même pas dans le quartier, c'est dans la même rue, le trottoir d'en face en fait. Et j'ai ouvert, donc du coup 1 an et demi après avoir ouvert mon gros salon, un deuxième salon, toujours le salon Lily Cruc, et j'ai embauché dans la foulée 3 personnes pour ce nouveau salon. Et d'un coup je me suis retrouvée avec beaucoup d'employés. Donc j'avais les 2 salons, beaucoup d'employés, je me suis quand même sentie un peu débordée par tout ça. J'ai dû embaucher une assistante aussi parce que d'un coup tout devenait beaucoup. En fait, mon petit business qui était mignon au début devenait vraiment d'un coup un gros business. Et c'était beaucoup pour mes petites épaules. Et après avoir fait aussi des calculs, je me suis rendu compte que c'était pas du tout rentable d'avoir 2 locaux, tout ça, parce que tu payes énormément de loyer à Paris.
Oui, donc, tu me disais quand on s'était parlé en amont que finalement ton premier employé c'était l'URSSAF.
Ah, bien sûr. Moi, l'URSSAF, c'est un peu compliqué. Mais bon, comme chaque personne qui entreprend en France, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai fini par fermer tout et ouvrir un plus gros. Toujours dans la même rue, donc le Monopoly dans cette rue vraiment, toujours mon même proprio, donc il a été très arrangeant, très sympa. Donc on a ouvert ce gros salon là au mois d'août l'année dernière, donc c'est récent. Et fin d'année, je pense franchement presque une dépression quoi, vraiment. J'ai eu des gros soucis avec l'URSSAF cette année, j'ai eu une régule, on m'a demandé de payer beaucoup d'argent d'un coup, parce que ma comptable avait mal géré des choses et ça m'a miné en fait. Où tu te dis, mais attends, je trime autant d'heures par semaine.
Moi, ouais, ça te ramène à la réalité aussi.
En fait, d'un coup, tout avait été très rose. En fait, tout le monde me disait, mais c'est pas trop dur de gérer un business. Et moi, j'avais pas l'impression que c'était dur de gérer un business en fait. Jusqu'à ce que la réalité te rattrape et que tu doives rembourser 50 000 balles à l'URSSAF. Ouais. Et d'un coup, ça te remet les pieds sur terre et tu dis, ah putain, si en fait, c'est dur. Et d'un coup, puis il suffit que ça se passe mal avec une de tes employées d'un coup. Et là, retour à la réalité cash, c'est ça en fait, gérer une entreprise. C'est parfois avoir des problèmes pour payer certains trucs, c'est avoir des problèmes à gérer avec tes employés, deux qui s'entendent pas, deux qui. Et là, tu dis, oh là là. Et en fait, dans quelle merde je me suis mise, j'étais très bien toute seule en fait, chez moi. Et donc, en fait, j'ai vrillé et j'ai proposé à mes employés un nouveau système. Il y en a qui sont partis, qui ont pris leur envol. Et il y en a certaines, du coup, qui ont décidé de revenir travailler en freelance cette fois-ci. Et ce nouveau système, ce nouveau mode de fonctionnement me correspond beaucoup plus, puisque je peux me focus beaucoup plus sur mes projets personnels. Les filles gagnent plus d'argent puisqu'elles sont à leur compte. Et c'est quelque chose que moi, je ne pouvais pas leur offrir, malheureusement, à cause des charges en France. Elles avaient un salaire décent, évidemment. Je payais plus que le SMIC. Mais je ne pouvais pas faire plus, malheureusement. Il y a un moment... et c'est frustrant des deux côtés. Parce que toi, tu es contente de ces personnes. Tu as envie de les payer plus. Mais tu peux pas à cause de l'URSSAF, parce que tout coûte très cher en France, surtout dès que tu payes plus au SMIC. Bah, le but, c'est quand même de rentrer des sous à la fin, puisque bah, le loyer, les charges, ouais, tout ça.
Et du coup, le Coven Nail, le nom, il a une signification.
Alors, on a vachement brainstormé, parce que du coup, ça s'appelait le salon Lily Cruc. Et comme d'un coup, c'était plus mes employés, je voulais vraiment marquer un tournant, que les clientes sachent que du coup, ça avait changé. Même si techniquement, ça les regarde pas trop, j'ai envie de dire, puisque finalement, elles viennent faire leurs ongles et elles s'en fichent un peu, mais elles voient bien que du coup, elles ne me payent plus. Moi, au poste central, qui a payé chacune des filles individuellement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on... On a brainstormé, en fait, avec ma chargée de com et mon assistante. On s'est posé, on a dit plein de mots. Et on s'est dit, en fait, les filles qui restent, elles ont une vibe assez dark. Elles ont grave des tatouages, elles s'habillent très en noir, machin. Et les filles qui bossent actuellement au salon. Et on s'est dit, mais c'est sorcière. En fait, en rigolant, on a dû dire, mais bah, c'est sorcière, là. Et on s'est dit, mais voilà. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le coven pour ces sorcières avec leurs ongles pointus.
Et voilà, c'est ça, le coven, c'est un rapport aux sorcières et à la réunion, enfin au groupe.
Exactement, c'est voilà, des réunions de sorcières, comme dans American Horror Story par exemple, la saison Coven, c'est sur les sorcières. Et du coup, c'était un peu un petit clin d'œil, je pense, sans même, je pense que c'était pas intentionnel, mais là en t'en parlant, tu vois, je m'en rends compte, bah, on nous dit tout le temps, ah, t'es longs ongles de sorcière. Et du coup, c'était un peu cool de reprendre cette ref-là.
Et en 2020, tu crées ta marque,
oui.
Donc Lily Cruc. D'abord, c'est des goodies, puis des produits. Est-ce qu'on peut parler d'un goodies en particulier, parce que je trouvais ça marrant, le Card Grabber. Parce que en fait, avoir des très longs ongles, ça nécessite une gestuelle particulière. Tu peux nous en parler ?
Bien sûr. Donc en 2020, ouais, c'est ça. J'ai créé de base, c'était du merch. En fait, j'avais fait des t-shirts un peu sympas avec des phrases un peu, voilà, it's not just nail, it's art beach, ce genre de choses. Et ça marchait bien. Les clientes aimaient bien parce que c'était l'occasion un peu de revendiquer un truc par rapport aux ongles. On trouve pas ce genre de truc, donc ça a bien marché comme ça. J'ai lancé les pinceaux. Pour le nail art, ma spécialité étant le nail art, c'était logique que je fasse des pinceaux. Et nous, donc mes ongles, je les porte très longs, très bariolés, et je peux tout faire avec, sauf, j'avoue, récupérer ma CB quand je tire de l'argent ou quand je fais de l'essence. J'ai mon permis depuis 6 mois, donc j'oublie que je peux tirer de l'essence. Mais, mais du coup, voilà, c'est un truc où t'es un peu handicapé, ça dépend, et c'est très chiant de demander à la personne derrière toi, excusez-moi, vous pouvez me donner ma CB? Ils ont l'impression que tu veux les arnaquer, ils font des drôles de têtes. Donc on s'est dit, bah, il faut prendre une pince. Ça se faisait un peu, les gros trucs en plastique, un peu, mais j'aimais pas trop. Moi, mon esthétique, elle est très gold, très shiny, j'aimais bien. Et du coup, j'ai fait faire tout simplement une sorte de pince à épiler. Ça ressemble vraiment à une pince à épiler, floquée, avec un porte-clé. Donc il y a des gens qui m'ont dit, j'en ai fait une vidéo sur Insta, et elle avait percé, je ne sais pas pourquoi, plus d'un million de vues dessus. Évidemment, tous les rageux qui me disaient, non mais super, c'est juste une pince à épiler. Mais on n'a pas dit qu'on révolutionnait le monde en créant ce truc-là. C'est juste pour faciliter la vie. Si tu as envie de mettre ta pince à épiler sur tes clés, bah, grand bien te fasse, et c'est cool aussi. Mais voilà, c'était l'idée. Et,
donc elle sert à retirer la carte.
Elle sert à récupérer ta carte.
Quand tu as des longs ongles et que tu ne peux pas le faire. Et puis, tous tes produits portent un nom. Là, je vais prendre une gamme qui s'appelle les Divinités, par exemple. C'est une gamme de vernis semi-permanent dans laquelle chaque couleur porte un nom de dieu issu de la mythologie. Athéna, Zeus, Hadès. Alors, c'est quoi la couleur du dieu des enfers, Lily Crack?
Alors, il y a un reflet vert un peu dans Hadès. La mythologie grecque, c'est un truc, ça m'a toujours passionnée. Donc, moi, j'ai fait grec ancien au bac. C'est un truc, ma grand-mère a des origines grecques et ma mère s'appelle Théodora, tu vois, donc on est dans un truc un peu grec chez moi. Et c'est un truc où ça m'a toujours passionnée, mais depuis que je suis petite, il y avait une option dans mon école primaire, mythologie grecque, et je sais pas, c'est un truc qui me fascine. Tout mon bras, j'ai mon bras gauche qui est tatoué en entier, et c'est que de la mythologie grecque sur mon bras, et il y a notamment Hadès avec le Cerbère, le dieu des enfers sur mon bras, parce que c'est un truc qui me fascine, je trouve ça trop intéressant.
Justement, si on s'attache un peu au vocabulaire du nail art, j'ai regardé un peu tes stories, tes directs, tes posts, et j'ai entendu des mots. Donc, je suis allée me renseigner entre-temps, quand même. Donc, tu me dis si je dis des conneries. Mais les mots que je vais citer, on les utilise dans le cadre d'une extension de l'ongle. Par exemple, l'apex, le chablon carré et amande, le pop-it. C'est un artisanat du coup très précis. Et du coup, on parle de quoi, là?
Là, c'est littéralement, par exemple, cette semaine, je suis en formation débutante, donc je forme des débutants, et je précise sans le E, parce que j'ai un garçon dans ma session cette semaine. C'est vraiment la partie technique. Donc l'apex, en anglais, c'est le sommet, donc le point le plus haut de ton ongle, donc c'est la partie qu'il faut renforcer pour éviter de les casser, donc quand on crée des extensions. Le chablon, c'est une technique d'extension, donc c'est un papier en fait qui fait comme une sorte de tuteur sur lequel tu vas venir déposer ta matière. Donc peu importe la matière que tu choisis, que ce soit du gel, de la résine, de l'acrygel, le chablon est le papier forme sur lequel tu poses ta matière et qui fait l'effet de tuteur qui te permet de créer l'extension. Le pop-it, c'est un peu la même chose, mais c'est une sorte de capsule que tu remplis dans laquelle tu mets de la matière sur ton ongle. Et en fait, tu retires la capsule une fois que ça a polymérisé sous les rayons UV dans ta lampe, du coup.
Très précis. Mais non, c'est vrai qu'on n'imagine pas au départ. Moi, je suis vraiment allée chercher des choses. Là, j'ai cité que quelques termes, mais j'en ai accumulé quelques-uns et essayé de les comprendre. Donc, on a parlé en introduction des collaborations. Tu as collaboré, par exemple, sur le clip Validé d'Amza en 2019, dont on a entendu le titre précédemment. Est-ce que tu peux nous parler de ces collaborations? Comment tu prépares ce travail-là? Est-ce que tu as eu un brief? Donc, tu me disais que tu ne t'étais pas déplacé sur le set du clip. Donc, comment ça se passe?
En fait, ça dépend des projets. Pour les clips, c'est assez rare. En fait, s'il y a qu'un artiste, là, en l'occurrence, ce n'était pas les ongles d'Amza que j'ai fait, mais de la danseuse, Sam Quilly, sur le clip. Ma cliente était la DA, en fait, de ce clip, Julia Stolz, du duo Julia et Vincent. Et elle m'avait contactée, bon, déjà parce que c'était ma cliente et qu'on s'entendait super bien. Et elle m'a dit, voilà, j'aimerais faire des ongles un peu... C'était pas une demande particulière, mais elle voulait que ce soit bien fait, en fait. Elle avait peur qu'elle aille faire des ongles dans un institut pas terrible et que s'il y avait des gros plans, parce qu'elle aimait les plans assez serrés, que ce soit pas bien fait. Donc elle l'a envoyé tout simplement faire ses ongles en amont chez moi. Et après, quand le clip est sorti, bah, j'étais ravie de voir mes ongles dans ce clip, sachant que j'adore Hamza, donc j'étais très contente. Après, parfois, ça peut arriver que je me déplace, surtout s'il y a des figurants, par exemple, si je dois faire les ongles de plusieurs personnes, ce genre de choses. Après, honnêtement, les clips, c'est pas ce que j'ai fait le plus. Plutôt des campagnes, plutôt...
Des éditos
ou pour Jean-Paul Gaultier, des campagnes de lancement. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait les ongles de Tokisha, qui faisait la dernière campagne Jean-Paul Gaultier, et Amelia Gray, du coup... un mannequin, moi je regardais sa télé-réalité des Real Housewives quand elle était petite, donc c'était drôle du coup de me retrouver à faire ça. Et dans ces moments-là, j'emmène une équipe avec moi parce qu'il y avait aussi d'autres figurants à qui il fallait faire les ongles, plus d'une dizaine de personnes, donc on prépare en amont, c'est des capsules en fait qu'on vient coller en général, avec une sorte de double face.
Que tu prépares avant, du
Exactement,
coup.
Exactement, qu'on prépare
et
avant.
Et que tu colles, ok. Mais tu avais collaboré aussi sur le défilé de Jean-Paul Gaultier par Olivier Rousteing.
Tout à fait. Le défilé de Jean-Paul Gaultier par Olivier Rousteing, c'était une super expérience. J'avais encore beaucoup d'employés à l'époque, on s'était déplacés, on était une dizaine, j'avais emmené toutes mes filles. Je voulais vraiment leur faire vivre. Moi, je fais des défilés depuis plusieurs années. C'est assez stressant. Et j'avais envie qu'elles vivent cette expérience, qu'elles connaissent une autre facette de notre métier, en fait. Je trouvais que c'était sympa. Elles étaient stressées, mais c'était chouette de les voir aussi dans cet environnement et qu'elles puissent voir bah, autre chose, du coup. Après, soyons honnêtes, c'était pas les ongles les plus fun de la Terre. On a fait juste du noir mat. J'avais essayé, donc on fait des réunions un peu... je suis conviée à ce genre de réunion avec le lead make-up, le lead hair aussi, et la DA, tout ça, et on discute. Donc autour d'une table, il y a Olivier Rousteing. C'est assez lunaire comme rendez-vous, mais parfois ça se fait en FaceTime. Je me suis déjà retrouvée dans des FaceTime à parler avec Kylie Jenner, par exemple. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métaverse, là, tu te dis, c'est n'importe quoi. Soit on prépare du coup en amont comme ça, soit on fait des réunions physiques. Et j'ai essayé évidemment de faire passer des trucs un peu plus fous, mais ils voulaient un truc un peu plus neutre cette saison-là. Bon.
Et c'est quand que tu as réussi à faire passer justement tes ongles un peu ouf?
C'était le premier défilé de la marque Alix par Matthew Williams, qui est le DA de Givenchy, du coup. Donc c'était il y a quelques années. Pas de budget, donc vraiment c'était le tout début. Mais on m'avait fait assez confiance par rapport à ce que je faisais à l'époque et j'avais fait des ongles avec des flammes et des fonds chromés, tout ça. Et à l'époque, je bossais vraiment seule, j'étais encore dans mon petit studio. Et j'avais fait ça toute la nuit, mais toute la nuit, vraiment, parce que la journée, j'avais des clientes et j'avais bossé toute la nuit sur ça. Et après le défilé, et j'avais réussi à avoir deux assistantes le jour pour m'aider à les coller. Mais c'était une super expérience quand même, parce que c'était vraiment mon premier défilé en tant que lead. Et c'était, j'en garde un chouette souvenir, même s'il n'y avait pas de budget, c'était pas grave, à l'époque.
T'as collaboré, enfin en tout cas, on voit un petit peu ton travail aussi dans la série de Jonathan Cohen... Le flambeau, c'est toi qui as dessiné Marc, donc le personnage interprété par Jonathan Cohen sur les mains d'Alexandra aka Leila Bekti.
Bon, vous êtes seul avec William.
Marc, je suis avec toi sinon je me bute.
Bon, arrête là. Alexandra là, tu te ridiculises devant tout le monde, tu me fous la honte. Bon, viens, faut que je te parle. C'est possible ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te ridiculises devant tout le monde là. Tu me fous la honte. Viens, faut que je te parle. Tu te ridiculises devant tout le monde là, tu me fous la honte. Bon, allez, viens, faut que je te parle. Tu te ridiculises devant tout le monde, là, tu me fous la honte. T'es bon? On a assez parlé?
C'était un extrait du coup du flambeau et d'une scène entre Alexandra et Marc. Et donc, sur tous les doigts d'Alexandra, on peut voir la tête de Jonathan Cohen, donc de Marc. Alors, j'ai essayé de trouver historiquement quelle pouvait être l'origine du nail art.
Okay.
Les premiers dessins sur les ongles et les mains à l'origine sont visibles plusieurs siècles avant Jésus-Christ, donc chez les Égyptiens et les Incas. Mais en tant que faux ongles, extension, etc. Et tu me dis si c'est une intox. Hein. Mais peut-être d'ailleurs, tu sais pas ou je sais pas. Bref. Mais il paraîtrait que c'est un dentiste américain les années 30 qui aurait été le premier à poser des faux ongles sur ses patients à l'aide d'une résine dentaire pour qu'ils arrêtent de se ronger les ongles. Mais que réellement, ça serait après la Seconde Guerre mondiale que le nail art serait apparu en tant que tel, avec d'ailleurs un attachement pour le classique rouge.
C'est tout à fait ça, c'est marrant, comme je suis en formation débutante cette semaine, je leur fais la petite anecdote comme ça, voilà, où je dis que évidemment ça ne peut être qu'un homme qui a créé ça pour les femmes, forcément, mais la petite anecdote veut que oui, c'est un dentiste, parce que c'est vrai que moi quand je vais chez le dentiste, elle est très sympa ma dentiste, elle me laisse grave regarder tout, on a exactement les mêmes outils, donc eux ils appellent ça des fraises, nous on appelle ça des embouts, mais c'est vraiment la même chose, la ponceuse ça ressemble, j'ai des embouts, c'est littéralement même le fait quand ils mettent de la lumière dans ta bouche, bah, ils polymérisent en fait la matière, comme nous on fait pour les ongles. Donc c'est encore très similaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, donc c'est assez drôle. Mais oui, c'est plutôt à partir des années 50 qu'on voit, donc c'était l'acrylique à cette époque-là. Donc la résine, qui existe toujours hein, d'ailleurs, mais le classique rouge, évidemment. Là, c'est pas le nail art, c'est plutôt la prothésie ongulaire. Pour tout ce qui est du nail art, pour moi, ça prend plutôt racine. Il y a beaucoup les États-Unis, dans la communauté noire américaine, plutôt, ça vient beaucoup de là. Et en Asie aussi, complètement, tu vois, au Japon et en Corée, elles sont à fond. Mais c'est des courants comme un art, finalement. Il y a plein de courants dans le nail art, il y a plein de choses différentes. Par exemple, les pays de l'Est, elles sont très, très ongles aussi, mais c'est très la technique. Manucure impeccable, forme d'ongle nickel au millimètre près, tu peux mesurer. Les Américaines, on est plus que sur quelque chose d'extravagant, tu vois, c'est chargé, c'est long, c'est en Corée ou au Japon, on est sur des trucs un peu plus subtils, avec des couleurs un peu plus, tu vois, un peu plus diluées. En France, on est un peu le mix de tout ça, tu vois, on est un peu perdu, mais je trouve ça très chouette, en tout cas, qu'il y ait plein de courants, comme en art.
Et est-ce que tu penses que, enfin, oui, tu, ça, j'imagine que oui, mais que comme elle a pu l'être le henné ou en tout cas toutes les pratiques qui ont précédé le nail art, est-ce que le nail art est aussi un moyen de marquer un groupe d'appartenance à une croyance aussi?
Waouh.
Est-ce que tu penses que ça peut, voilà, c'est aussi quelque chose qui rassemble?
Ah, complètement. Il y a vraiment, bah déjà, tu vois, un truc tout bête, quand je te parlais tout à l'heure du blog, je parlais de communauté. Donc déjà, il y a vraiment un truc. Puis, il y a ce truc, moi, je le vois dans le métro. Tu vois, je prends le métro tous les jours pour aller bosser. Et du coup, j'ai les ongles très chargés, très longs. Ça attire le regard. Mais je vois, il y a ceux qui te regardent avec une tête, tu sais, genre dépité en voyant ça. Mais on s'en fout d'eux. Mais il y a d'autres filles ou même des garçons. Des fois, on m'en parle, mais de manière plutôt sympa. Où je vois les filles qui ont les ongles faits, qui me regardent et qui sourient. Enfin, il y a un petit truc un peu genre, ah, attends, entre nous, on se reconnaît parce qu'on sait que bah, c'est du boulot, que c'est beau, c'est technique. Et bah, tout simplement, c'est le fait d'aimer aussi prendre soin de soi. Je pense jusqu'au bout des ongles, en fait. Il y a aussi ce truc-là.
Et puis, ouais, j'avais lu aussi, du coup, en lisant l'histoire un peu du nail art et des ongles, qui est apparemment une anecdote. De la même manière, tu sais que les Amazones se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc correctement sans être gênées. La manucure, apparemment, il y a un groupe de femmes armées en Amérique du Sud qui attacheraient un soin important à leurs ongles pour les aider à bien tirer avec des armes à feu. Et que, en gros, la manucure les aiderait justement à être plus précise dans le tir.
Alors, voilà. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote.
Et je trouvais ça hyper beau, genre de me dire que jusqu'au bout des ongles, ça pouvait être un service pour une pratique.
Badass qui était... jusqu'au bout des ongles,
ouais,
j'adore.
De ouf. Donc, dans une interview, je t'ai entendu dire que voilà, donc c'était aussi montré qui on était jusqu'au bout des ongles et que quelque part ça montre aussi la puissance de la femme forte, et que contrairement aux clichés de la vulgarité et de l'anti-élégance presque, c'était un art que l'on arbore dans tous les milieux sociaux. Tu racontais plusieurs fois d'ailleurs l'anecdote d'une de tes clientes, notaire ou claire de notaire, qui s'était fait une manucure avec inscrit suspute sur ses ongles. Ça peut être un moyen aussi de sortir de soi, je pense, de s'exprimer autrement que par la voix, comme peut l'être un vêtement.
Oui, oui, tout à fait. Moi, ce truc, souvent, on me dit « Ah, mais tes clientes, forcément, elles n'ont pas des métiers sérieux, elles n'ont pas... » Moi, j'ai des clientes, j'ai une cliente qui est avocate. J'en parle souvent parce que c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Donc, cette cliente, elle vient depuis des années. On a commencé avec des tout petits semis. Maintenant, elle fait des extensions en stiletto XL, hyper chargées. Et je lui ai déjà peint Bob l'éponge et Patrick l'étoile de mer sur ses ongles. Et elle est allée plaider comme ça. Tu te dis « Waouh !» Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle me dit « Mais déjà, je suis une femme, donc on ne me prend pas au sérieux. » Elle me dit « En plus, je suis noire, donc les gens m'attendent au tournant. Bah, autant faire parler les gens. » Et j'adore. Tu vois, c'est vraiment... on est sur attitude, vraiment. Tu te dis là...
Vraiment.
Elle se dit « Bah, tu sais quoi, tant qu'à faire. » Et je trouve ça chouette parce qu'en soi, qui a interdit ça? Personne. Il n'y a pas de loi qui interdit d'avoir du nail art quand on va plaider. Donc, moi, je trouve ça super parce qu'elle s'assume pleinement. Elle s'habille, tu vois, elle a ses modes, elle est très pointue dans comment elle s'habille et tout. Et je trouve ça super chouette qu'elle qu'elle cède pas à la pression sociale, finalement, qui dit qu'une avocate doit être en tailleur chiant. Et elle, elle est plutôt, plutôt fun. Et je trouve que c'est super. Après, on a aussi... des maîtresses d'école le mercredi. C'est notre jour des maîtresses d'école, du coup, puisqu'elles sont off. Mais on a de tout. Vraiment, on a de tout. On a des gens qui sont très aisés. On a aussi des gens qui tirent en espèces en début du mois le budget ongles, parce que pour elles, c'est vraiment
l'essentiel.
Ouais. Elles payent leur loyer et elles disent, et après, on voit ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment, on a de tout. Souvent, on nous dit, ah oui, mais vous, c'est sûr, voilà, il n'y a que des chanteuses. On a aussi ce type de clientèle, mais on touche vraiment tout le monde et toute classe sociale. Tout type de femmes différentes, parce qu'on est toutes différentes, et aussi les garçons.
Ton slogan, c'est « It's not just nail, it's art, bitch ». On peut dire que c'est ton slogan.
C'est tout à fait mon slogan, c'est une marque déposée, même j'ai envie de te dire.
C'était une réponse à qui, cette punchline?
C'était un peu une réponse à... J'en avais marre que tout le monde me dise, quand je rencontrais des gens, tu fais quoi dans la vie? Et même moi, je disais, je fais les ongles. Et même moi, je réduisais finalement ce que je faisais à, je fais juste des ongles. Et non, je fais pas juste des ongles, je fais de l'art sur des ongles. Et je pense que c'est important de le notifier. Enfin, c'est quand même des mini-toiles, 10 mini-toiles. Sur lesquels on vient faire quelque chose d'ultra précis ou pas. D'ailleurs, on peut faire juste une couleur et ça peut être très beau. Mais en fait, moi, j'adore parce que tout est possible. Et on s'ennuie pas parce qu'en plus, il faut les refaire tous les mois. Et c'est ça qui est chouette.
C'est vrai. Ça me fait penser à la rappeuse belge Shai qui a créé le concept de jolie garce. C'est la femme qui s'assume et qui dérange.
Les petits ont des visions. Vois gagner l'euro.
Jusqu'ici, tu mènes la vie que tu veux, Lily Kruk ?
Tout à fait. Surtout cette année, depuis que j'ai pris vraiment cette nouvelle résolution d'un nouveau mode de fonctionnement dans mon business, je suis vraiment hyper contente de ma vie professionnelle, très fière de ce que j'ai accompli, des rencontres que j'ai faites qui m'ont amenée à faire des projets fous aussi. Je suis très accomplie, en tout cas professionnellement parlant, et je suis contente d'avoir fait ça en une dizaine d'années. J'ai déjà vécu des trucs assez fous, juste... en faisant des ongles, comme disent les gens. Donc, tu te dis que c'est juste des ongles, mais qui m'ont fait vivre quand même des moments assez fous dans ma carrière. Et je pourrais arrêter demain et je serais déjà ravie de ce que j'ai fait.
C'est quoi ton dream de collaboration, par exemple, avec soit un artiste, soit, je sais pas, une marque, une maison de couture?
J'adorerais, évidemment, quand tu vois des maisons comme Schiaparelli, tout ça, qui font... Moi, j'adore les ongles bling, donc évidemment, j'aimerais bien faire des choses avec eux, mais je pense qu'ils bossent avec Cam souvent, et je respecte beaucoup quand les gens sont fidèles à une nail artist. J'aime bien, justement, quand les maisons sont assez fidèles, donc je ne serais pas du genre à aller dire « Ah, regardez-moi, je suis là !» Non, ils bossent avec elle et je respecte vachement. Ce que j'aimerais, aux États-Unis, ça se fait beaucoup, il y a pas mal de nail artists qui ont été exposés au musée. Ils ont exposé dans le cadre d'exposition des ongles et j'avoue, ce serait quand même un peu boucler la boucle par rapport aussi à mes études.
D'avoir un solo show.
Alors peut-être pas un solo show, mais d'avoir en tout cas certaines de mes pièces, un peu de mon art, exposées au musée du Louvre.
Voilà,
soyons fous.
Les curateurs l'appellent lancé.
Voilà, à Beaubourg ou quoi, tu vois. Mais en vrai, voilà, ce serait boucler la boucle et je trouve que ce serait un joli...
Ou aux Arts Déco, ce serait bien.
Aux Arts Déco, bien sûr, avec grand plaisir.
Lily, on peut suivre ton travail sur tes pages Instagram, Lily Kruk et Le Coven Nail, et trouver les produits et les goodies de ta marque sur Shop Lily Kruk. Juste avant de nous quitter, on peut parler en quelques mots de cette commande spéciale SCH, ce travail SCH que tu as posté récemment sur tes réseaux.
Oui, c'est ma collègue Salomé qui me tanne depuis des années pour des ongles SCH. On a enfin fixé une date et je lui ai dit « Ok, mais j'ai le droit d'écrire « Oui, ma gâtée » sur tes ongles ». Elle m'a dit, c'est parti, et on a fait ça.
Il y a oui, ma gâtée, mais il y a la tête des CH.
Il y a évidemment son portrait. Il y a le portrait de Julien, pour les intimes. On aimerait bien. Et oui, ma gâtée, on a fait tout un truc par rapport à l'autoroute, parce que c'était un thème d'un de ses albums. Et c'était hyper fun à faire, et on en a fait une vidéo un peu rigolote, et ça a super bien marché sur les réseaux, avec quelques détracteurs, évidemment, sinon c'est pas drôle, mais c'était super. Et je pense que je ferai Jules la prochaine fois.
Et puis, tu fais aussi une série de vidéos qui s'appelle « Je juge
vos poses ».
Je juge vos poses, où tu juges un travail d'une nail artiste qui te contacte.
Oui, c'est ça. Donc, c'est volontaire, je précise, parce que je ne me permettrais pas d'aller juger le travail des gens qui m'ont rien demandé. Et donc, j'avais fait une story en appel et les filles ont beaucoup répondu. Et en gros, je commente en disant « ça, c'est bien, tu présentes bien, tout ça, par rapport... » je sais pas, le référencement est bon, sur ta pose ça c'est beau, tu pourrais changer ci, ça, ça.
Voilà, but, c'est autant la bio que c'est le tout. Travail de nail art que l'aspect esthétique
c'est
aussi.
C'est l'ADA du compte voilà. Insta, c'est le travail, les finitions du boulot, et puis c'est même les pages, la politique, c'est de sa petite société, et les tarifs aussi, parce que je milite pour une augmentation des tarifs dans le milieu ongulaire, donc
pour j'essaie. Pour que ça ait une crédibilité.
Ouais, que le travail soit reconnu, parce que pourquoi on paierait des cils 150 euros pour 2 heures et des ongles 30 balles pour 2 heures? Je comprends pas, en fait, sachant que nous, on utilise plus de matériel, ou même l'épilation, tu vois, ils sont à plus d'1 euro la minute. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire entendre, c'est un luxe, évidemment, c'est pas une nécessité, mais pourquoi les autres luxes y arrivent et pas nous, en fait? Ça m'énerve un peu.
Ça va venir.
J'espère.
Merci Lily Craig d'être venue au micro de la matinale.
Merci à toi.
Le 9h15-10h, c'est tous les mercredis, exceptionnellement en mai, jour férié oblige, 2 dates seulement. Après la talentueuse Lily Craig, retrouvée le mercredi 29 mai, l'essayiste écrivaine Fatima Wasak à propos de son dernier livre « Rue du Passage » sorti aux éditions Lattès. La matinale avec Lily Craig sera disponible à l'écoute jeudi prochain. En attendant, vous pouvez réécouter l'ensemble des épisodes du 9h15-10h sur duoradio.fr. Merci à la technique Hélène Huyn. À très vite sur Duoradio.
La matinale sur l'actualité de la création contemporaine par Victoire Lebars.